au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Dominique Fernandez de l'Académie française a publié chez Grasset en février 2010, avec Tolstoï, un livre qui parcourt la vie, les romans, les nouvelles, le journal, les innombrables écrits de Tolstoï, en le situant, en comparant l'écriture, les procédés de l'écrivain par rapport aux autres monuments de la littérature, loin de l'image officielle de Tolstoï, véritable gloire nationale en Russie, et loin de l'image établie par rapport à son rival Dostoïevski. Dès les premières lignes qui plongent dans l'univers de Tolstoï, Dominique Fernandez regrette qu'une part des lecteurs s'écarte de cette œuvre majeure, prisonnier de l'image d'un écrivain qui ne dispose pas de cette souffrance intérieure qui permet, dit-on, d'écrire des choses profondes. Le fameux conte Tolstoï, Diasnaya Poliana, incarne durablement les privilèges de la Russie impériale du XIXe en parfait héritier pour les lecteurs d'hier et d'aujourd'hui. C'est à l'insoumis contre les pouvoirs, contre l'État, contre l'Église, contre la société, que Dominique Fernandez a voulu rendre hommage à l'éternel mécontent de lui-même, à un écrivain assoiffé de perfection intérieure tout au long de sa vie. Après la lecture du livre de Dominique Fernandez avec Tolstoï, l'homme et l'œuvre paraissent au lecteur de 2010 bien contemporains, car cet immortel reste dérangeant, selon les mots de Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, Tolstoï apparaît-il comme un personnage romanesque, puisqu'il a eu deux vies opposées? Mais pour vous, il s'agit d'une même chose, d'une...
Oui,
même,
mais vous savez, tous les hommes intéressants ou femmes sont romanesques. Ce n'est pas spécial à
Tolstoï.
On peut dire ça de Stendhal, de Balzac, de Dickens. Non, ce qui est important de voir, c'est que, je crois, Tolstoï, par naissance, appartenait à l'aristocratie russe, donc était riche, pas très riche d'ailleurs par rapport à d'autres, mais enfin, il avait un grand domaine, Yasnaya Poliana, où il est né. Et il avait été un privilégié quand même, il avait 15 domestiques, mais ce n'est pas le sens que ça a aujourd'hui. Hein. 15 domestiques en Russie, il vivait très bien, il faisait partie de la famille en quelque sorte. En même temps, il se sentait coupable d'avoir ses privilèges, et dans son journal, qu'il a tenu dès l'âge de 18 ans, il se sent coupable. Et toute sa vie, il a été torturé par le fait d'être comte Tolstoï riche, alors que la masse des Russes était à cette époque dans une misère effroyable. Le peuple russe au XIXe siècle vivait dans des conditions épouvantables, et tout Tolstoï est là, dans cette contradiction, enfin, contradiction de fait entre son état social et ses aspirations.
C'est une image qui a nuit, d'après vous, à sa découverte ou à sa redécouverte?
Non, parce qu'on ne sait pas ça. Au contraire, on le présente toujours un vieux barbu, tranquille, comme ça, qui... On en fait une espèce de personnage monolithique, c'est pas du tout... C'est un personnage torturé.
En pleine contradiction?
Oui, c'est en quoi il est moderne, parce que sinon ce serait daté. Parce que les contes russes du 19e, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec... Alors lui, il était très en avance sur son temps. Il y a dans ses écrits de la fin de sa vie, des choses qui annoncent la révolution soviétique.
Lesquelles, par exemple?
Eh bien, d'abord, sa polémique contre l'art. Il dit que l'art actuel, l'art européen, enfin l'art russe, est fait pour l'élite. Il dit que les livres, les tableaux, etc., c'est fabriqué par des gens du peuple, mais ils n'en profitent pas parce qu'ils n'ont pas accès. Le langage de ses œuvres est incompréhensible. C'est très moderne. Aujourd'hui, c'est vrai que l'art, plus que jamais,
à l'art.
En 2010, c'est que le français moyen, si vous l'emmenez dans une galerie, il poussera des cris, il ne comprendra rien, il verra des tâches, des installations, des choses comme ça. Donc Tolstoï, déjà, il y a plus de 100 ans, faisait la même polémique. Or, les soviets, vous savez, la politique soviétique populaire, c'était de rendre l'art accessible au peuple. Et ils ont condamné, d'ailleurs, avec excès, évidemment, ce qu'on appelle le formalisme. Mais tout ça est contenu déjà dans Tolstoï. C'est ça qui est très intéressant.
Parmi les écrivains russes, vous avez dit dans L'Art de raconter que les écrivains russes, en général, avaient cette faculté, justement, de rendre leurs écrits très accessibles au public.
Oui, je crois que c'est sa grande littérature.
Ça correspond à la culture russe?
Non, c'est la grande différence entre la littérature russe et la française, c'est que les écrivains russes sont conscients d'une mission à remplir auprès d'un peuple illettré. Donc ils écrivent spontanément, d'une façon claire et facile. Pouchkine, Gogol, Tolstoï, Dostoïevski, Pasternak et l'autre siècle. C'est-à-dire l'art pour l'art, la recherche formelle, ça n'existe pas. La Flaubert russe, ça n'existe pas. Ils écrivent très bien, hein, mais il n'y a pas une recherche pour l'art. Ce genre de recherche ne s'adresse qu'aux spécialistes, qu'aux gens très cultivés. Donc l'art pour l'art, la recherche formelle, le formalisme, ce n'est pas du tout dans la culture russe. C'est un poème de Pouchkine, c'est le premier grand écrivain russe, c'est d'une clarté absolue. Et donc tout le monde peut comprendre, même les gens sans culture, comme était le peuple russe au XIXe siècle, tout le monde peut comprendre Pouchkine et Tolstoï, il est immédiatement accessible. Et ils ont tous ça dans le... Je crois que c'est spontané, c'est même pas un effort pour eux, ils sont l'écrivain qui s'adresse à son peuple.
Dans la société russe, est-ce qu'il y avait cette proximité aussi, Tolstoï sur son domaine, avec ses paysans,
ben oui, parce
avec
que,
ses domestiques...
Bien sûr, on a une idée du fossé par notre époque, évidemment, mais... Vous savez que le servage a été aboli en 1861 seulement. Avant, les gens étaient serfs, esclaves. Mais ce n'est pas des esclaves comme dans les colonies, comme autrefois en Martinique ou à Saint-Domingue. Ils faisaient partie du domaine, ils étaient protégés par le seigneur, ils étaient soignés, ils faisaient partie de la famille. C'est une grande famille. Ils étaient beaucoup plus...
Et lui a beaucoup...
Beaucoup mieux traité que s'ils avaient été libres, parce que là, ils seraient morts de faim. Donc là, ils étaient nourris, logés, etc. Et donc tous les domestiques, les serfs, puis les domestiques... C'était la grande famille.
Une grande famille qui l'a beaucoup inspiré.
Oui, bien sûr.
Bon, on va peut-être revenir après là-dessus.
Parce qu'on parle des domestiques, hein, oui. Il y a une nouvelle qui s'appelle Maître et Serviteur.
Maître et Serviteur.
Maître et Serviteur, ouais. Ou La Tempête de Neige, parce qu'il y a deux versions. C'est extraordinaire. Il y a un cocher qui emmène son maître sur un traîneau, il doit faire une visite quelque part. Ils sont pris par une tempête de neige. Terrible. Donc, il n'y a plus de repères. Et la voiture s'arrête, une espèce de voiture à cheval, évidemment. Et ils se réfugient sous la capote pour lutter contre le froid. Ils sont perdus, à ce moment-là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Donc. Et ce qui est très beau, c'est que c'est le maître se couche sur son serviteur pour le garder en vie. Et la nouvelle finit, le maître meurt de froid. Et lui, le cocher survit. Vous voyez, c'est très beau, il renverse. On voit bien que sa sympathie, lui-même était maître, mais sa sympathie allait au cocher. C'est une nouvelle extraordinaire, ouais. Ça.
Vous dites que Tolstoï était un écrivain de gauche.
Ah oui, tout à fait de gauche, parce qu'à la fin de sa vie... En tout cas, il a oscillé. Au début, jeune, il était de sa classe, vraiment comme tous les jeunes gens. Il jouait aux jeux, il faisait des... etc. Mais à la fin de sa vie, il disait qu'il ne fallait pas payer ses impôts, qu'il fallait déserter l'armée, pas faire de service militaire. Il critiquait la justice, le régime des prisons. Il a été excommunié par l'Église. Il était vraiment subversif. Hein. Il aurait beaucoup plu aux gens de mai 68 s'il l'avait connu.
Puisque vous parliez du cocher de maître et serviteur, est-ce qu'il y a une philosophie sociale ébauchée dans toute l'œuvre de Tolstoï?
Oui, énorme. Dans Guerre et paix, par exemple, la sagesse est incarnée par un paysan, Platon Karataïev, pendant l'invasion napoléonienne. C'est lui qui est solide, on voit très bien que c'est lui qui, pour Tolstoï, incarne la vraie façon de vivre.
À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est devenu romancier?
Il n'y a pas d'explication, on est romancier, vous savez, on est.
On est.
Poète ou romancier, d'ailleurs, d'habitude c'est incompatible. Il y a les grands poètes, puis il y a les grands romanciers, ou les petits même, enfin je crois qu'il a toujours écrit. Je ne sais pas quand on remonte son premier texte, mais il naît son journal à 18 ans, et puis ça a débouché sur le roman, oui.
Son récit enfance,
oui, c'est justement. Son premier texte, c'est ça. Mais c'est, donc il raconte...
Parce que
la sienne, mais pas seulement la sienne. Il rencontre une enfance, c'est ça qui est très beau. Il y a trois volets, il y a enfance, adolescence, jeunesse. C'est ses premiers textes publiés, en tout cas. Et c'est... Donc, il parle de lui, mais on s'aperçoit qu'il a complètement modifié les données.
C'est pas autobiographique.
C'est pas autobiographique du tout, parce qu'il parle de sa mère et de son père. Alors, il a perdu sa mère quand il avait quelques mois, et son père quand il avait 9 ans, alors que là, ils sont là, présents. Donc, il fait déjà un travail de romancier sur sa propre vie. Au lieu de raconter ce qui lui est arrivé, il raconte une enfance telle qu'il aurait voulu la voir. C'est le principe même du roman, ça.
Là, il y a quand même probablement des blessures intérieures dans cette mère qu'il n'a pas...
Il a perdu sa mère, il était orphelin très jeune.
Il n'a pas connu. Oui. Et vous racontez, quand vous visitez le domaine de... J'écorche toujours
Yasnaya Polyana. C'est-à-dire clairière lumineuse.
Vous remarquez dans le cabinet de travail, justement, une reproduction de lithographie de Raphaël.
La Madone Sixtine. Oui, les Russes adorent ce tableau.
Alors, vous racontez, vous expliquez que justement, c'est un...
C'est très curieux parce que dans le cabinet de travail de Dostoïevski à Saint-Pétersbourg, il avait aussi accroché au-dessus de son canapé la reproduction du même tableau. Et c'est ce fameux tableau qui est à Dresde aujourd'hui, qui est le chef-d'œuvre de Raphaël, il faut dire. Les gens qui n'aiment pas Raphaël ne connaissent pas ce tableau, parce que c'est souvent ennuyeux, Raphaël, aujourd'hui, je trouve. C'est Madone, tout pareil. Mais là, c'est vraiment extraordinaire. C'est un mystère. Et les Russes adorent ce tableau. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais...
Vous évoquez son épouse. Là, on parlait un petit peu de sa vie et de ce qui faisait que Tolstoï était quand même contemporain. Il a eu une vie conjugale très agitée, toute en contradiction avec son épouse, Sophie. Comment ça a pu nourrir son œuvre?
De diverses façons. Donc... Dans sa jeunesse, il a eu des maîtresses, comme tous les jeunes aristocrates de l'époque. Et puis, à 32 ans, si je me rappelle bien, il s'est fiancé et marié avec une jeune fille de 18 ans, Sophie. Et il lui a montré son journal.
Ah oui, juste avant de l'épouser.
Elle a la vu veille, avec horreur, elle était une vierge pure, innocente, naïve, a vu avec horreur que son mari avait déjà beaucoup vécu. Puis après, il lui a dit, toi aussi tu dois tenir ton journal, et chacun a tenu son journal toute leur vie, leur longue vie conjugale de 48 ans, et ils se montraient le soir ce qu'ils avaient écrit l'un sur l'autre. Donc souvent des horreurs. Et pendant 48 ans, ils ont vécu dans un rapport d'amour et haine absolument extraordinaire.
Vous parlez de muse et de contre-muse.
Oui, parce qu'elle lui était nécessaire, comme épouse, comme partenaire sexuel, parce qu'il était très, très ardent. Ils ont eu 13 enfants, et même
jusqu'à
peut-être
très tard.
16, peut-être même. Il y a eu des enfants morts-nés, enfin je ne sais pas. Et puis surtout, elle était une collaboratrice extraordinaire. C'est elle qui recopiait ses manuscrits.
Il a recommencé 7 fois Guerre et Paix, donc on imagine qu'il a...
Elle a recopié 7 fois, et son écriture, on la voit dans les musées, elle était très difficile à lire, elle seule pouvait lire. À l'époque, il n'y avait pas de moyens, il fallait écrire à la main, donc elle a recopié. Et en plus, elle a défendu ses œuvres quand il était attaqué, elle était très dévouée, alors que lui était assez dur avec elle. C'est un rapport très, très curieux.
Presque violent. Hein.
Oui, presque violent, oui.
Qu'est-ce qui résumerait d'un mot pour vous la qualité des écrits de Tolstoï ?
Moi, je dirais, un mot, c'est impossible, évidemment, mais je dirais que c'est l'écrivain le plus juste qui a existé. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, comme j'ai dit, il ne fait pas de recherche littéraire, il ne tord pas la réalité, il dit les choses comme elles sont. Il y a ici un verbe, et il dirait, il y a un verre sur la table, mais il l'écrit très bien, évidemment. Il pose un regard juste, et son œil est extraordinaire. J'ai mis un portrait de Tolstoï jeune, on voit qu'il a un œil bleu, perçant, comme ça. Il pose son regard sur le monde et il décrit tout, les objets, mais aussi la guerre, la paix, l'amour, la mort, l'adultère, la trahison, la souffrance, tout. Le champ de blé, le cheval. Et c'est un ton toujours juste. C'est très rare, un écrivain juste, parce que Balzac, il tord la réalité. Dostoïevski encore plus. Céline, n'en parlons pas. Lui, c'est un regard juste. Moi, je compare à Homère, l'Odyssée, pour moi, le plus grand livre jamais écrit, parce que Homère déploie le monde sous nos yeux, sans le forcer. Les écrivains tendent toujours à tordre la réalité pour montrer leur marque, pour imprégner leur style. Lui, pas du tout. Alors, c'est un style magnifique, mais c'est un style... Je ne sais pas comment le décrire. Il faut demander à des Russes, évidemment. Mais vous ne sentez jamais l'écrivain, le travail de l'écrivain.
Ah oui, alors que c'est un forcené du
alors
travail.
Alors qu'il a écrit 7 fois Guerre et Paix. Il a écrit 15 fois le premier chapitre, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas comme Flaubert, où vous sentez le travail. Flaubert, on sent que c'est laborieux. Là, non, pas du tout, c'est égal. Et s'il travaille, c'est pour trouver l'expression juste.
Juste. C'est reposant.
Oui, enfin, c'est dérangeant aussi. Hein. Par exemple, la description de la messe dans Résurrection.
Dernier de ses romans.
Dernier de ses grands romans, complètement méconnu, à tort. C'est un admirable roman. Et alors, Tolstoï, qui était très opposé à la hiérarchie orthodoxe,
oui,
écrit la messe comme ça, la messe pour les prisonniers, puisque ça se passe en Sibérie. Alors, la messe des prisonniers, alors, il dit le prêtre, il ne dit pas même pas prêtre, je veux dire un monsieur, mais un tablier, il ne dit pas la chasuble. Il prend une tasse, il ne dit pas une coupe, pas un calice, et puis il mange un morceau de pain, enfin, il désacralise complètement la description, mais sans critiquer. Mais le fait même est tellement fort que ça lui a valu l'excommunication de l'Église. Ils disent que quelqu'un d'extérieur, n'étant pas au courant du rite, verrait. Il verrait quelqu'un qui mange du pain, qui boit un coup et qui...
Ça serait un ton juste ironique ou...
Non, même pas.
Même pas.
C'est même pas ironique. C'est de même quand il va...
Bon, pourtant là, il est conscient de ce qu'il écrit.
Oh, bah, évidemment, il est conscient. Mais je veux dire, c'est pas qu'il dénonce, c'est pas un travail de critique. Il dénonce par la description. Et de même, on l'emmène voir Wagner. Il détestait l'art moderne. On l'emmène voir Wagner. Et là, il va voir Siegfried et ça lui paraît... Au lieu de dire que c'est grotesque, il décrit ce qu'il a vu, il dit, et monsieur qui prend une hache et qui donne un coup, et il ajoute, jamais personne n'a tenu une hache comme ça. Lui, il savait, parce qu'il était menuisier, il était bûcheron aussi. Il dit, jamais personne n'a tenu une hache comme ça. Donc, il ridiculise l'œuvre comme ça, simplement, mais pas par des mots de moraliste, simplement par la justesse
de son observation. Ouais. À propos de l'Église et de son rapport au christianisme, il souhaitait même un christianisme sans prêtre. Dans la société russe, ça paraît complètement orthodoxe, ça paraît complètement anarchiste. Presque.
Oui, mais il était vraiment contre tous les pouvoirs, l'État, l'Église, les tribunaux, tout ça. Moi, j'ai relu les œuvres, parce qu'un écrivain, c'est dans ses œuvres qu'il faut le connaître. C'est pas dans sa vie.
Et donc, l'ouvrage est parsemé d'extraits que vous prenez, vous avez choisi dans son journal, sa correspondance, ses œuvres, ses romans, ses nouvelles. Et à propos de la misère urbaine qu'il dénonce, Vous avez choisi un extrait d'un ouvrage dont vous dites qu'il n'est même plus publié en France, qui a disparu, le recensement de Moscou.
Oui, c'est extraordinaire.
Et c'est une scène, j'allais dire, je ne suis pas juge, mais enfin, mieux que Zola.
C'est
quelque
scène...
chose de très surprenant.
Oui, alors,
cherche la page.
Non, mais je vais vous dire, moi, en 82, on fait le recensement de la population de Moscou. Tolstoï s'inscrit et il choisit le quartier pauvre, le quartier des asiles de nuit, des prostituées, des pots de mendicité. Et il décrit, là aussi, il décrit en termes extrêmement justes ce qu'il voit, c'est-à-dire l'horreur. L'abbé Pierre aurait très bien pu signer ça, vous voyez, c'est cette sensibilité au malheur d'autrui. Et alors après, il décide de faire une campagne, de recueillir de l'argent pour améliorer la situation de ces gens. Donc il va dans les maisons riches, puisqu'il était comte Tolstoï, il organise des soirées, et on lui promet de donner de l'argent pour ses œuvres, tout ça. Et il dit quelque part, seules deux personnes ont rempli leurs promesses.
Ouais,
il ne les critique pas, il dit simplement, voilà, s'en fichaient complètement, ces gens du monde riche s'en fichaient complètement que les pauvres gens meurent de misère. C'est ça qui, moi, qui m'attache beaucoup à Tolstoï. Oui.
C'est ce qui vous séduit, c'est ce qui vous...
Voilà. C'est ça qui différencie de Chateaubriand, par exemple. Vous voyez, Chateaubriand qui plane toujours, et ça vieillit, tout ça. Tandis que Tolstoï est très, très actuel, parce qu'il y a de plus en plus de misère, de plus en plus de la justice. Et ce qui est beau, encore une fois, c'est que lui était un privilégié.
Ouais.
Lui n'avait pas à souffrir personnellement. Ce qui est beaucoup plus beau que quelqu'un qui lui-même a tout, ne se contente pas d'avoir tout, il va voir un peu ce qui se passe à côté de lui. Oui.
Vous voulez lire l'extrait, là? Je l'ai sous les yeux.
Premier temps, découverte de la misère urbaine dans les asiles de nuit. Et là, je cite, « Tous les logements étaient pleins, tous les lits étaient occupés, et souvent par deux personnes. Ce spectacle était effroyable, vu l'exiguïté des pièces et le nombre de gens, hommes et femmes, qui s'y trouvaient entassés pêle-mêle. » Bien qu'elles ne fussent pas ivres mortes, toutes les femmes dormaient à côté des hommes. Beaucoup de femmes couchaient avec leurs enfants et des hommes qui leur étaient étrangers dans des lits très étroits. Le plus désespérant, c'était de voir le nombre incalculable de malheureux qui se trouvaient dans cet état. Ces repères n'en finissaient pas. Après l'un, l'autre. Et partout la même exiguïté, la même chaleur et tout suffocante, la même promiscuité de gens, les mêmes hommes et femmes ivres jusqu'à la perte de toute connaissance, la même épouvante, l'humiliation et la soumission à la destinée se lisaient sur tous les visages. Oui, c'est quand même...
assez magnifique.
C'est très fort. Et ça, en 1882, de la part d'un comte riche, il aurait pu rester chez lui. Personne ne le forçait à faire ça, oui.
Il y a la même force aussi sur les textes contre la guerre, sur la barbarie, la violence.
Il a écrit...
Là, on pense à Céline, mais c'est un coup de poing
similaire. Oui, mais c'est plus
similaire.
Fort que Céline, parce que Céline...
Vous trouvez que c'est même plus fort.
Mais oui, parce que Céline, vous sentez l'écrivain qui veut montrer qu'il est original. Tolstoï, il s'efface derrière son sujet. Il était officier à un moment, il a participé à la guerre de Crimée, vous savez, contre les Français, Sébastopol. Il a fait un texte qui s'appelle « Les récits de Sébastopol » où il décrit l'horreur de la guerre. C'est-à-dire quand on va au front, les blessés, l'hôpital. C'est un texte terrible de dénonciation, mais là encore sur un ton très calme. Vous voyez, il ne dit pas « alors la guerre est une horreur », il décrit les effets de la guerre et c'est le lecteur qui conclut que c'est une chose barbare. Il rend compte de ce qu'il voit.
Quand dans la vie de Tolstoï et dans son œuvre, le prédicateur prend-il le pas sur l'écrivain?
Même dans Guerre et Paix, il y a quelques chapitres.
Ça commence.
Jugé comme ça un peu prédicant, moi je trouve pas. Mais enfin, et puis à la fin de sa vie, il renonce à la littérature. Enfin, après 50 ans, enfin, sauf exception, génial.
Parce qu'il continue à écrire quand même.
Oui, il écrit des nouvelles, il écrit. Mais enfin, officiellement, il renonce à la littérature pour écrire des textes philosophiques, moraux. Il écrit contre le tabac, contre l'alcool, des livres sur comment être heureux, contre le sexe, contre...
Il prêche. Mordicus, j'allais dire.
Il prêche, mais c'est contre l'art moderne. C'est comme très intéressant, parce que c'est Tolstoï. Je veux dire, c'est pas du tout à rejeter comme ça, c'est trop facile. C'est très intéressant.
Vous nous décrivez dans sa totalité tout ce qu'il a écrit.
Oui, mais contre le tabac, par exemple. Aujourd'hui, on applique du tolstoïsme. Il dit pas, il savait pas que ça donnait le cancer, mais enfin, il dit que c'est une chose nocive.
Est-ce qu'il n'y a pas d'humour là derrière tout ça?
Non. C'est pas un humoriste. Hein.
Pourtant, dans La mort d'Ivan Ilitch, à un moment, vous dites que là, quand même, peut-être qu'il s'inscrit pour certaines scènes, non pas qu'il exagère, mais dans ce qu'il décrit, dans la veine des humoristes russes.
Oui, parce que entre parenthèses, c'est un des plus beaux textes de Tolstoï. Hein. Ceux qui seraient rebutés par la masse de Guerre et Paix peuvent lire La mort d'Ivan Ilitch, c'est 100 pages, l'histoire d'un homme, d'un juge, comme ça, très 50 ans.
Puis c'est beau par rapport à sa vie, à son histoire aussi.
Oui. Qui, tout d'un coup, a une espèce de douleur là, et il va mourir, il sent, enfin, une sorte de cancer ou de tumeur, et c'est un des plus beaux textes sur la mort. Et ça commence par, justement, il est mort, et l'humour, c'est de dire que ses collègues, pas se réjouissent, mais enfin, sont heureux, en disant, c'est lui qui est mort et pas moi. Enfin, vous voyez, là, c'est la tradition de Gogol. Enfin, c'est très discret, ça, cette veine chez Tolstoï.
C'est cruel, quand même. C'est comme ça.
Regardez,
c'est
aller à l'enterrement, vous verrez que les gens sont ravis d'être toujours en vie. C'est universel. Tolstoï, il dénote la note universelle. Il ne se paye pas de parole.
Il a voulu faire cette œuvre universelle. Et ce projet, cette ambition, dès le départ.
Oui, il était conscient. Parce que quand on commence Guerre et Paix, 2000 pages, rien que le titre, il embrasse une matière énorme. Bien sûr, il était conscient.
Est-ce qu'il garde un mystère pour vous,
Tolstoï? Bah oui, tous les grands écrivains, vous savez, on peut écrire 100 livres, les gens, ils ont été écrits, chacun a une lecture différente, il y a beaucoup de choses mystérieuses, parce qu'on a son journal, on a beaucoup de lettres, mais enfin, dans toute vie, il y a des parts très obscures.
Vous présentez comment il campe un personnage en quelques mots par rapport à d'autres écrivains, vous parlez de son style, de son art de raconter, vous donnez même un peu ces recettes que vous avez sélectionnées, retrouvées, dont vous avez fait la synthèse à travers la correspondance et ses œuvres.
Par exemple, il disait l'art d'écrire, c'est de couper. Il disait, il faut d'abord écrire un premier jet comme ça, spontané, et après il faut couper. C'est une recette que beaucoup d'écrivains devraient suivre, hein, malheureusement. Tous les romans qu'on lit aujourd'hui, par exemple, sont beaucoup trop longs. Stendhal dit la même chose. Ils sont très proches, passant d'un côté. Il faut couper, ellipse, pas de transition, éliminer tout ce qui est le gras là, de la prose, garder l'essentiel.
Que pensez-vous des adaptations des œuvres de Tolstoï au cinéma?
On voit qu'il ne reste rien. Il y a eu 3 Anna Karenine avec des grands acteurs, Greta Garbo, Vivien Leigh et une Française horrible. Et il ne reste rien, il reste la trame, mais c'est pas... On voit bien que non.
C'est impossible, peut-être.
Bah, si, il faudrait quelqu'un de génial, un très grand cinéaste, mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé.
Alors, vous nous parlez même d'un opéra de Prokofiev.
Alors, ça, c'est très beau. Alors, c'est Guerre et Paix.
Adapté.
J'adore cet opéra. C'est un opéra sublime, écrit pendant la guerre patriotique, là, en 1941. Prokofiev a découpé ses romans en 13 scènes, moitié paix, moitié guerre, comme dans le roman. C'est un opéra extraordinaire et qui restitue beaucoup mieux que les films, pas tous les romans, évidemment, mais l'atmosphère de Guerre et Paix.
Parce que c'est une gloire nationale en Russie, Tolstoï.
Ah oui.
Quel est le rapport des Russes, justement, au fil du temps? Vous avez découvert Tolstoï il y a longtemps, mais vous avez peut-être observé...
Guerre et Paix, c'est un livre de vie pour eux. C'est pas simplement un livre de littérature. Il y a tout, là. Il y a la sagesse, comment se comporter. C'est
l'excellence du roman, pour vous, ça, la ligne de vie.
Oui, et pour les Russes, c'est vraiment ça. Ils lisent pas un écrivain quand ils lisent Tolstoï. Ils lisent quelqu'un qui leur dit... Comment vivre, enfin, il est...
On parlait de la musique chez Tolstoï, là, de Prokofiev, de cette adaptation de l'opéra. Quel est le rapport qu'il avait avec la musique, justement?
Ah bah, comme tous les Russes, vous savez, les Russes sont tous mélomanes. Même le mot n'existe même pas, je crois. À moins d'être sourd, un Russe aime vivre avec la musique. À Yasnaya Polyana, dans le salon, qui n'était pas tellement grand, d'ailleurs, mais il y avait 2 grands pianos de concert, 2 pianos à queue. Il jouait lui-même avec ses filles à 4 mains. On a même un enregistrement au musée Tolstoï de Moscou. Et la vieille babouchka vous fait passer On entend Tolstoï jouer du Grieg ou du Chopin, je ne sais pas. Enfin, et il connaissait personnellement des grands pianistes qui venaient chez lui jouer aussi. Enfin, mais ça, ce n'est pas spécial à Tolstoï. Hein. Tous les Russes, ça n'existe pas un Russe qui n'aime pas la musique.
Les Russes de sa condition aussi.
Ah ben tous. Enfin, aujourd'hui, moi, je vais en Russie, j'ai des amis qui habitent dans des pièces et des petits appartements. Il y a un piano droit. J'ai visité des écoles, il y a 3 pianos. Vous voyez, c'est pas comme ici où on a une culture musicale phénoménale.
Comment vous avez découvert Tolstoï?
Ah ben, j'ai lu à 15 ans Guerre et Paix. C'était ma première grande lecture en 3 jours et 3 nuits, je me souviens très bien. C'était un éblouissement. Je ne pouvais pas le lâcher. Depuis, j'ai relu 2 fois entièrement, dont 1 fois pour faire ce livre, évidemment. Et toujours, c'est un livre magique pour moi.
C'est le plus grand des écrivains pour vous ?
Je crois que c'est le plus grand des romanciers.
Des romanciers. Absolu.
Parce que vous savez, écrivain, il y a des écrivains qui ne parlent pas de romans d'abord. C'est le plus grand des. J'aime aussi beaucoup Stendhal, que je mets aussi haut, mais ce n'est pas tellement le romancier Stendhal qui m'intéresse, l'intelligence, tout ça. Mais le romancier, la capacité de créer des personnages, de les faire vivre, dans ces 3 romans, Guerre et paix d'Anna Karénine, Résurrection, et dans ces innombrables nouvelles, pour moi, c'est le plus grand. Oui, si ça a un sens quelconque de dire ça. Mais c'est un des génies, je veux dire, moi je le mets à l'égal de Shakespeare, de Homère, enfin c'est un des très très grands génies de l'humanité.
Vous donnez même un petit guide de Guerre et paix.
Oui, parce que c'est bien qu'aujourd'hui les gens trouvent difficilement le temps de lire.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le lecteur fasse? Évidemment lire Tolstoï, mais
oui,
ça, ça va de soi. Mais pour les jeunes lecteurs.
Mais jeunes lecteurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est pas...
Pour tous les lecteurs.
Un grand écrivain. Vous savez que Tolstoï avait créé une école à Yasnaya Polyana, il s'intéressait beaucoup... Pour les enfants du village.
Il leur faisait la classe.
Il n'y a pas d'école. Et il avait installé dans une des pièces de son manoir une école. Et là aussi, c'est très subversif. Il disait que ce sont les enfants qui vont enseigner au maître et pas le maître aux enfants. Ce n'est pas le résultat que ça donnait. Mais vous voyez, il a écrit des livres de pédagogie. Il a réécrit l'évangile aussi pour que ce soit compréhensible pour des Russes. Il a écrit tout un livre, un recueil de fables pour les enfants. Il savait très bien que c'est déterminant. Un enfant qui se met à lire, lira toute sa vie.
Et vous, en tant que lecteur de toute son œuvre, quelles sont les parties ou les œuvres où vous avez pris le plus de plaisir, même dans ce travail-là, en recommençant, en relisant pour
J'aime moins Anna Karénine, contrairement à l'opinion générale,
ouais. Qui
est son livre le plus célèbre, parce que c'est l'amour, la passion, tout ça. C'est très beau, mais je préfère Guerre et paix et Résurrection, qui est un livre admirable. Et puis les nouvelles, La mort d'Ivan Illich, Hadji Murat, qui est sur la guerre de Tchétchénie. On s'aperçoit que cette guerre, si on ne le savait pas, dure depuis 200 ans, c'est pas une nouveauté d'aujourd'hui. Et alors, tout ce qu'on lit dans les journaux, c'est stupide, parce que c'est une guerre sans fin, inexpiable, entre des montagnards rebelles et l'autocratie russe. Il y a des nouvelles comme le Diable.
Qui viennent d'être rééditées dans la collection d'André Versailles. Ce sont des petits ouvrages pour qu'on offre, ce sont des petits cadeaux, ça s'appelle la collection « À s'offrir en partage ». Et vous en avez fait la préface, justement.
Oui, Le Diable, c'est une très belle nouvelle sur la puissance du sexe. Ça hantait Tolstoï sur un homme qui est obsédé par une servante alors qu'il a juré d'être chaste. Enfin, si on raconte comme ça, ça a l'air un peu moralisant, mais en fait, c'est très beau.
Ce qu'il s'imposait aussi, mais...
Oui. Non, c'est très beau. Puis, tout est beau chez Tolstoï. Et le scandale, c'est que beaucoup de choses sont introuvables aujourd'hui en librairie.
Ouais.
Il n'y a pas de Tolstoï complet, il n'y a pas d'œuvre complète de Tolstoï, c'est inouï.
Et son journal ?
Un journal, oui, la Pléiade, ça c'est bien, a publié en 3 volumes l'intégrale du journal qui est passionnant. C'est comme avec Stendhal, je trouve que c'est le journal le plus intéressant, de 18 ans à 82 ans.
Et... Ça doit être une mine, ça.
Ah oui, c'est une mine extraordinaire. C'est beau, on le voit avec ses contradictions, ses souffrances, ses jugements quelquefois injustes d'ailleurs. Moi, on n'est pas toujours d'accord avec lui, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais il vous stimule, il vous provoque, il vous invite à réfléchir.
Il parle de ses lectures réciproques du
non,
journal de
dire,
sa femme.
Il faut mettre en parallèle les 2 journaux, parce qu'on a publié sur Sophie, enfin certains extraits.
Oui.
C'est très intéressant, ça.
Et sur la mort de Tolstoï.
Ah ben ça, c'est extraordinaire. Donc, toute sa vie, il est déchiré par la contradiction entre le fait d'être privilégié et puis la masse du peuple russe. Et tout d'un coup, il parle de partir, déjà. Il faut quitter tout ça, mais il reste parce qu'il est pris dans l'engrenage de son état social, en quelque sorte.
Sur son
à 82
domaine.
Ans, tout d'un coup, il dit, en pleine nuit, tout d'un coup, il dit, je ne peux plus, je m'en vais. Donc, à 2h du matin, il appelle une de ses filles, Alexandra, et il dit « On part en cachette, surtout ne préviens pas ta mère, je te défends de prévenir ta mère. » Après 48 ans de mariage. Donc, ils partent tous les deux, ils prennent le train vers l'Est, on ne sait pas très bien vers où, mais c'était en novembre, en Russie, en novembre, il fait déjà -15. Tolstoï tombe malade en route dans le wagon glacé, parce qu'on ne chauffait pas les wagons à cette époque, il attrape une pneumonie, sans doute, une pleurésie, et on le débarque dans une petite gare à Stapovo, à, je sais pas, 300 km de Moscou, et le chef de gare donc lui cède sa chambre. C'est une petite gare, vous savez, il y avait 2 pièces, j'imagine, un guichet puis une chambre pour le chef de gare, une gare minuscule. Et il y avait un quai, et Tolstoï interdit qu'on prévienne sa femme. Après 48 ans de mariage, la femme affolée là-bas, ne savait rien. Finalement, elle est prévenue par un journaliste, je crois, parce qu'il était tellement célèbre qu'il ne pouvait pas rester incognito. Elle accourt, mais Tolstoï refuse de la voir, et pendant 8 jours, elle dort dans le wagon. Alors que Tolstoï agonise dans la petite gare. Et elle n'a pu le voir que lorsqu'il avait perdu conscience. C'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais revu conscient. C'est effrayant. Après 48 ans de mariage, 13 enfants, un rapport quand même très, très vif. C'est une collaboratrice, elle défendait ses œuvres. Il refuse tout, il refuse son domaine.
C'était une vie de renoncement.
Son état social, sa femme, ses enfants, tout pour...
C'était peut-être son ultime renoncement.
Oui, mais alors, le paradoxe, elle n'a pas su, mais c'est qu'il était tellement célèbre que toute la presse mondiale est accourue pendant son agonie. Et les paparazzi, déjà, on les voit avec des... Il y avait déjà des films à l'époque, ils ont filmé. Ils étaient sur le toit de la gare avec leurs appareils, leurs caméras. Et donc, il n'a pas pu mourir seul. Et après, on a ramené son corps à Yasnaya Polyana. Il y a eu des obsèques avec des milliers de gens. Enfin, c'était...
Comme les obsèques de Victor Hugo.
Oui, mais on peut le comparer, tout comme type d'œuvre, mais comme célébrité. Comme... Il a rempli son siècle. D'ailleurs, ils sont morts au même âge, à 82 ans, hein, 83 ans. Il y a lui et Verdi en Italie.
Ah, c'est à Verdi que je le comparerai.
Ah oui, oui, à Verdi, c'est ça. Il a, lui aussi est mort à 82, 3, 4 ans, je ne sais plus. C'est des gens qui ont incarné leur siècle, leur peuple, leur nation, qui ont un rôle politique, qui ont eu une vie mouvementée. C'est les trois géants du 19e.
Et aujourd'hui, quels seraient les Tolstoïs du 21e siècle ?
Ben, il y en a eu en Russie. Enfin, il y a eu Grossman, par Vie et Destin. C'était un livre sur l'époque de Staline, du Goulag. Il y a eu Solzhenitsyn un petit peu, mais qui était beaucoup plus polémique, lui. Il n'avait pas cette sérénité, cette...
Cette ampleur du
aussi.
Regard.
La tragédie a empiré, évidemment. Il y a eu Pasternak, comme le docteur Jivago. On peut dire que c'est des tolstoïens, tout ça.
Et dans les jeunes écrivains ?
Ben, les jeunes, non. Alors, les jeunes que je lis en traduction, ouais. J'en lis beaucoup, mais c'est... Non, c'est la Russie convulsive d'aujourd'hui. C'est la drogue, l'alcool, la politique.
C'est Dostoïevski qui l'a emporté ?
Non, non, non. Il n'y a pas de Dostoïevski non plus. Je ne sais pas, même pas en France, il n'y a plus de ces grands écrivains qui embrassent, sont capables de... Je ne crois pas, enfin pour le moment, je ne sais pas, on verra.
Merci Dominique Fernandez.
Merci.
De nous avoir parlé de Tolstoï et de nous inviter à lire Tolstoï avec votre livre Avec Tolstoï, publié chez Grasset en février 2010.